Quatrième et dernière émission avec vous, Catherine Belzung, sur la dépression. Je rappelle que vous êtes neurobiologiste, professeur de neurosciences à l'Université de Tours et responsable de l'unité INSERM, imagerie et cerveau. Alors, qu'est-ce que vous étudiez dans votre institut ?
Alors, notre institut est focalisé sur les maladies psychiatriques en général, enfin, plus particulièrement sur la dépression et l'autisme également. Et nous avons une approche, en fait, qui se déroule dans le cadre de l'approche de la médecine personnalisée.
C'est-à-dire,
notre idée, c'est que la dépression du sujet A n'est pas la même que celle du sujet B, qui est encore différente de celle du sujet C. La même chose pour l'autisme. Et donc, l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle une stratification des populations de patients. C'est-à-dire, quand on a 100 patients dépressifs, d'abord, dans un premier temps, de réussir à identifier lesquels ont la dépression de type 1, lesquels la dépression de type 2, lesquels la dépression de type 3. Donc ça, c'est un premier aspect. Donc, identifier les différentes formes de dépression. Et ensuite, partant de là, évidemment, mettre en place des traitements spécifiques de la dépression 1, de la dépression 2 et de la dépression 3.
Mais il y a combien de formes de dépression ?
Alors, on pense qu'il y a principalement la dépression, donc celle qu'on connaît déjà, enfin la dépression qui répond aux antidépresseurs, la dépression plus classique, qui est causée par le stress et répond aux antidépresseurs. Ensuite, il y a une dépression qui est liée à l'inflammation. Parce qu'il a été montré aussi que certains traitements qui stimulent l'inflammation vont produire des effets dépresseurs. C'est des traitements, par exemple, pour l'hépatite C ou qui induisent une dépression chez les patients. Donc ça, c'est une autre forme de dépression. Ensuite, on pense qu'il y a des dépressions qui sont... Alors, les dépressions dont on a déjà parlé, c'est-à-dire la dépression postpartum, la dépression saisonnière...
Des petites dépressions Non, elles peuvent être graves aussi.
Elles peuvent être graves aussi. Donc, en fait, cette idée, c'est, et je pense qu'il y a après des dépressions qui sont liées à des altérations cognitives. Et donc, ça aussi, c'est
ça
quelque chose
qu'on... Ça veut dire quoi, des altérations cognitives ? Comme quoi, par exemple ?
Par exemple, la flexibilité mentale,
ce genre de choses. Des gens qui sont trop rigides, par exemple.
Voilà, par exemple. Donc, c'est aussi des choses qu'on est en train d'essayer de vérifier.
Et la fameuse dépression qui serait due à une flore intestinale qui ne soit pas bonne ?
Voilà, c'est également un aspect qui peut peut-être se rapprocher de la cible inflammatoire, parce que c'est possible aussi que ça cause un état inflammatoire. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas encore bien définies. Mais globalement, à notre avis, ça dépend également des symptômes qui sont prédominants dans la pathologie, puisque, en fait, comme on a déjà vu, la dépression, elle se caractérise par différents types de symptômes. Il y a des patients chez lesquels ce qui est prédominant, c'est la tristesse. Il y a d'autres chez lesquels ce qui est prédominant, c'est, par exemple, l'anhédonie.
C'est-à-dire le manque de plaisir, c'est ça ?
Le manque de plaisir. Et ces dysfonctions sont liées à des dysfonctions spécifiques de certaines régions du cerveau. C'est-à-dire l'anhédonie, c'est lié à une dysfonction d'une région qu'on appelle le noyau accumbens, ou bien la tristesse, c'est lié à des dysfonctions d'autres systèmes cérébraux, notamment un système qu'on appelle le cortex singulaire. Et donc, selon les nouvelles approches, ce consiste à se dire si les états dépressifs entraînent des dysfonctions d'un réseau cérébral, peut-être qu'on pourrait agir directement sur ces réseaux cérébraux les stimulant.
Mais ça voudrait dire donc, si je vous comprends bien, que la dépression serait plus un symptôme qu'une maladie.
Alors effectivement, ça c'est une approche qu'on pourrait considérer, c'est-à-dire en fait, il y a des personnes qui disent que la dépression c'est un petit peu comme la fièvre. La fièvre c'est un symptôme. Et votre fièvre, évidemment, si vous avez une fièvre parce que vous avez tel virus de la grippe ou si vous avez une fièvre parce que vous avez la rougeole, vous n'allez pas la traiter de la même manière. Donc, ce serait un petit peu pareil pour la dépression.
Il faudrait trouver d'abord la cause, le dysfonctionnement, d'où il vient.
Il faudrait trouver le dysfonctionnement et traiter ce dysfonctionnement, en fait.
Alors, vous dites par stimulation, ça veut dire quoi ?
Alors, une approche possible... C'est que, étant donné que dans le cerveau, en fait, il y a des aires cérébrales qui sont dysfonctionnelles chez les dépressifs, une manière simple d'agir serait de stimuler les aires cérébrales qui ne fonctionnent pas assez. Alors, il y a différentes approches pour ça. Par exemple, il y a une approche dite de stimulation électrique.
Les électrochocs.
Transcrânienne. Alors, il y a, dans le passé, on faisait les électrochocs. Alors, les électrochocs, ça consistait à à stimuler l'ensemble du cerveau, pratiquement. Ça entraînait des espèces de crises d'épilepsie généralisées. Et c'est quelque chose qui a été vulgarisé, mais qui est apparu comme assez choquant. Enfin, notamment dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, on voit ces formes de traitements qui étaient un petit peu barbares. Mais néanmoins, même aujourd'hui, malgré l'apparente barbarie de ces traitements, ils marchent très bien. Donc, ils continuent à être utilisés. Néanmoins, comme ils ont des effets qui ne sont pas très focalisés sur le cerveau...
C'est-à-dire pas très précis.
Pas très précis, ça va entraîner une altération de l'ensemble du fonctionnement cérébral. Notamment, ces patients se plaignent d'amnésie, de choses comme ça, comme effet secondaire. Du coup, on préfère actuellement des approches plus ciblées qui vont consister à cibler uniquement les réseaux cérébraux dysfonctionnels.
Mais comment on sait lesquels sont dysfonctionnels ?
Alors, notamment, on sait ça par des approches de neuroimagerie. Disons, le futur, ça pourrait être ça. C'est-à-dire, c'est d'identifier chez un patient, par une approche de neuroimagerie, quelle est la zone du cerveau qui dysfonctionne. Et ensuite, stimuler cette zone au cours de petites sessions quotidiennes, c'est des sessions quotidiennes de 6-7 minutes, en ne ciblant que la zone défaillante.
Mais vous la ciblez comment ?
Alors, il y a différentes manières de le faire. Alors, une approche qui existe, c'est la stimulation cérébrale transcrânienne. Là, ça consiste juste à mettre une anode et une cathode et raccrocher ça à un petit générateur électrique. Et on envoie en gros un courant électrique.
Il faut que ça se fasse à l'hôpital, donc.
Alors, malheureusement, actuellement, c'est cette approche de neurostimulation est utilisée. Vous pouvez acheter vous-même sur Internet un dispositif pour vous neurostimuler. Le problème, c'est que vous n'allez pas savoir quel endroit vous devez neurostimuler. Le fait que ces appareillages soient disponibles en vente libre sur Internet est assez inquiétant parce que les étudiants, par exemple, vont les commander parce qu'ils pensent qu'ils pourraient ainsi améliorer leur performance lors des examens. Ça, c'est une approche.
C'est dangereux.
Je ne pense pas que ce soit dangereux, finalement, parce qu'il semblerait que l'os crânien, en fait, freine énormément la diffusion de ces courants électriques.
Donc, on ne peut pas aller dans les zones profondes.
On ne peut pas aller dans les zones profondes. Et même, il y a une controverse actuellement, puisque certains neurobiologistes pensent que ça ne franchit pas l'os crânien du tout. En fait, vous avez l'impression qu'il y a un effet parce que ça va stimuler votre cuir chevelu. Et du coup, vous allez sentir un petit fourmillement au niveau du cuir chevelu. Mais ce n'est pas parce que vous sentez un fourmillement dans le cuir chevelu
que, vous êtes plus
que ça atteint votre cerveau. Parce que le cerveau, heureusement, est protégé par une boîte crânienne.
D'accord.
Donc, il y a d'autres approches qui nécessitent des dispositifs un petit peu plus élaborés, qui s'appellent la stimulation magnétique transcrânienne. Là, cette fois-ci, en fait, on stimule avec des sondes magnétiques. Et ce courant magnétique traverse l'os crânien et va modifier l'activité électrique du cerveau.
Et ça existe déjà.
Donc ça existe déjà. C'est utilisé dans les hôpitaux, dans différentes pathologies. Mais l'inconvénient, c'est que ça ne peut stimuler que des zones superficielles du cerveau. Donc ça peut fonctionner quand le déficit du patient concerne une zone superficielle.
Comme par exemple,
le cortex préfrontal est une zone superficielle. Mais les autres zones dont on a parlé dans les entretiens précédents, notamment l'amygdale, l'hippocampe, le noyau accumbens, le cortex singulaire antérieur, qui sont des régions qui sont également dysfonctionnelles dans la dépression, mais qui sont situées plus profondément dans le cerveau, ne peuvent pas être atteintes par ces ondes magnétiques. Donc là, que peut-on faire dans ces cas-là ? L'approche qui est utilisée chez les personnes qui ont des dépressions très, très, très graves consiste à implanter chez ces personnes des électrodes. Donc là, il y a une chirurgie. On ouvre l'os crânien, on implante une électrode, on referme le tout. Cette électrode est raccrochée à un petit boîtier qui permet d'envoyer du courant électrique dans l'électrode. Donc vous voyez que c'est une approche qui est extrêmement invasive. Et il y a évidemment peu de personnes qui acceptent d'avoir dans leur cerveau, une électrode qui va stimuler des zones profondes du cerveau. C'est très efficace. Ça a été testé sur une soixantaine de patients dans la dépression.
En France ?
Non, au niveau mondial.
Simplement sur 60 personnes ?
Voilà, simplement sur 60 personnes. Parce que le problème, c'est qu'on ne peut absolument pas dire aux gens quels effets secondaires il peut y avoir en ayant une électrode dans le cerveau sur un temps long. Donc, en général, ce qui se passe, c'est que des patients profondément déprimés vont avoir cette proposition thérapeutique. Les patients vont dire « Ok, je veux bien avoir une électrode dans le cerveau ». Et comme par hasard, la veille de la chirurgie, en général, ils disent « Ah ben non, finalement, je préfère pas essayer, je me sens un peu mieux ».
Mais en même temps, ça fait peut-être partie aussi de la pathologie de la dépression de ne pas arriver à prendre de décision.
Effectivement, une des difficultés de la dépression.
Donc, on a peu de recul.
On a surtout peu de recul avec des années, en fait, parce que c'est un traitement qui a démarré peut-être il y a 5 ou 10 ans, qu'il y a des personnes qui sont implantées depuis 5 ou 10 ans.
Et c'est efficace pour elles.
Et c'est efficace, mais on n'a pas de recul sur ce qui se passe au bout de 20-30 ans.
Et enfin, vous pensez qu'il pourrait y avoir des conséquences négatives?
Ben, on ne sait pas, c'est-à-dire il peut y avoir une inflammation, par exemple, pour avoir ce corps étranger dans le cerveau. Enfin, on ne sait pas trop. Alors, c'est une approche qui est utilisée dans d'autres pathologies, des pathologies neurologiques, par exemple la maladie de Parkinson. Il y a des patients qui sont traités avec ce type-là de stratégie thérapeutique. Mais nous, ce que nous essayons de développer, c'est des thérapies qui permettent une stimulation profonde, mais d'une manière non invasive. Donc, en utilisant des ultrasons. Parce que les ultrasons offre deux avantages. Le premier avantage, c'est la précision. On peut stimuler une toute petite région, c'est-à-dire on pourrait cibler juste le petit endroit qui dysfonctionne et on peut l'appliquer dans des zones profondes du cerveau de manière non invasive, c'est-à-dire sans avoir recours à l'implantation d'électrodes. Nous essayons de développer ce genre-là d'approche au sein de notre unité INSERM. Pour l'instant, on en est à des études chez l'animal. Évidemment, on a montré que ça fonctionne dans la souris. On a déposé un brevet pour ça. Mais il y a encore un chemin assez long à parcourir avant de pouvoir l'utiliser en routine chez le patient. Notre rêve serait de développer un genre de casque que le patient pourrait avoir chez lui à domicile. Il n'aurait pas besoin d'aller
comme un
à l'hôpital. Voilà. Et il se ferait sa petite séance de 6-7 minutes le matin. Et puis ensuite, il serait libre de mener sa vie.
Et on appelle ça comment? Donc la stimulation ultrasonore?
Voilà, c'est la stimulation ultrasonore transcrânienne, puisqu'elle traverserait l'os crânien. C'est toujours un problème. En fait, le cerveau, évidemment, est heureusement protégé par un os crânien. Sinon, vous pourriez le toucher directement.
La stimulation ultrasonore transcrânienne que vous êtes en train de développer dans votre unité INSERM Imagerie et Cerveau de Tours, mais c'est assez révolutionnaire, non?
Ah oui, c'est totalement révolutionnaire, effectivement. Et ce que je voudrais quand même souligner, c'est que si nous avons pu proposer des projets aussi innovants que celui-là, c'est parce que notre unité est une unité transdisciplinaire. Nous avons dans notre institut des chercheurs qui appartiennent à 14 disciplines différentes.
14 disciplines différentes.
Voilà, alors ce sont des disciplines extrêmement différentes, c'est-à-dire nous allons avoir par exemple des linguistes qui vont étudier le langage chez des enfants autistes. Donc ça relève directement des sciences du langage, rien à voir même avec la psychiatrie. Nous allons avoir des philosophes, alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que font des philosophes dans un institut comme celui-là? Eh bien, par exemple, les philosophes vont nous permettre d'affiner les concepts. Par exemple, vont nous dire, bah, ce que vous mettez sur le terme de dépression, en réalité, ça regroupe différentes formes. C'est des philosophes qui peuvent nous aider à dire ça. Ensuite, nous avons évidemment des psychiatres, des pédopsychiatres. Et puis ensuite, nous avons des disciplines qui relèvent plus de la biologie, c'est-à-dire des personnes qui font des neurosciences cellulaires, des neurosciences moléculaires, des biochimistes qui vont étudier les différentes molécules, qui vont pratiquer des dosages dans différents fluides corporels. Enfin, j'en en cite que quelques-unes des disciplines.
Des physiciens, non?
Nous avons des physiciens, nous avons des mathématiciens. Alors que font-ils dans notre unité? Bah, par exemple, ils peuvent développer des nouveaux dispositifs d'imagerie. Ça, c'est pour avoir des outils pour pouvoir faire cette thérapie personnalisée, identifier différentes formes de dépression. Il faut pouvoir disposer de nouveaux outils. Et ça c'est quelque chose, c'est le développement d'outils. C'est pas moi qui vais, évidemment, avoir des compétences en ingénierie pour fabriquer tous ces appareillages. Il nous faut des mathématiciens parce que les mathématiciens vont nous aider dans le traitement d'images. Et ça, c'est des gens qui baignent au milieu des équations, enfin mathématiques. Donc, en fait, nous avons une unité, on dit souvent que c'est une unité réellement interdisciplinaire. Qu'est-ce que veut dire le réellement là-dessus? Ça veut dire que ce n'est pas une juxtaposition de 14 disciplines, c'est que ces personnes travaillent ensemble sur un projet commun.
Vous, quelle est votre formation?
Alors, ma formation, elle est assez originale, puisque j'ai une triple formation. Une formation en histoire de l'art, c'est ce que j'ai fait au début. Ça n'a pas de lien avec ce que je fais actuellement. Je m'intéressais aux questions des émotions esthétiques et donc j'ai étudié l'art. Ensuite, j'ai une formation en psychologie. Je fais une maîtrise de psychologie et puis ensuite une formation en neurosciences. Actuellement, mon poste, je suis professeur de neurosciences, donc j'étudie le cerveau et la partie des neurosciences qu'on appelle les neurosciences intégratives et cognitives, c'est-à-dire j'étudie comment le cerveau permet les processus cognitifs et le comportement. Parce qu'il y a d'autres neuroscientistes qui, eux, vont étudier comment fonctionne un neurone. C'est-à-dire qu'ils sont au niveau d'une cellule. Moi, je ne suis pas au niveau de la cellule, je suis à un niveau beaucoup plus intégré.
Et vous êtes combien dans votre institut?
Alors, nous sommes à peu près 170 à travailler ensemble. Donc, ces 170 incluent une cinquantaine de doctorants, 35 à peu près personnels administratifs et techniques. D'ailleurs, il faut bien le souligner, ces doctorants et ces personnels administratifs et techniques qui font l'essentiel
du travail. Du concret, des observations.
Voilà. Et puis ensuite, il y a des chercheurs, donc ce sont des gens qui font que de la recherche. Des enseignants-chercheurs, ça ce sont des personnes qui enseignent et qui font de la recherche. Et puis nous avons des hospitalo-universitaires qui sont des psychiatres qui en même temps ont une activité clinique, c'est-à-dire qui reçoivent des patients et qui font de la recherche.
Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'instituts qui sont spécialisés sur les questions de dépression?
Il y en a assez peu, en fait, en France. On dit que la psychiatrie est en train de devenir une priorité nationale, étant donné son coût sociétal. Mais en réalité, il y a assez peu d'instituts qui sont dédiés entièrement à la psychiatrie, et encore moins qui suivent cette approche que nous essayons de mettre en œuvre, qui est à la fois interdisciplinaire et qui consiste à la fois à améliorer l'état des patients psychiatriques et à développer des nouvelles instrumentations qui est donc basée sur ce dialogue en fait. C'est un dialogue à la fois entre disciplines, c'est un dialogue aussi entre les personnes qui font ce qu'on appelle une recherche de paillasse, c'est-à-dire moi j'ai des souris, des coupes de cerveau, des lames, et puis des personnes qui font ce qu'on appelle une recherche clinique, c'est-à-dire qui voient le patient en chair et en os. Parce que vous pouvez avoir des instituts en France où des gens vous parlent de dépression parce qu'ils étudient la souris dépressive, mais ils n'ont jamais vu un patient dépressif parce qu'il manque de lien avec les cliniciens. Donc pour nous, ça c'est fondamental d'avoir à la fois cette interdisciplinarité et ce lien entre les gens qui sont à la paillasse et les gens qui voient les patients.
Mais si moi je suis une personne dépressive en chair et en os, comme vous dites...
J'ai du mal à vous croire.
Comment je peux faire pour avoir cette fameuse stimulation ultrasonore transcrânienne?
Alors pour l'instant, on n'en est pas encore à l'étude clinique. Il faut d'abord qu'on règle quelques problèmes techniques. Et puis, une fois que ces problèmes sont réglés, nous allons passer à ce qu'on appelle des gros animaux.
C'est-à-dire des singes, par exemple?
Voilà, par exemple, des singes, avec évidemment toutes les précautions qui sont requises, c'est-à-dire, évidemment, pour des raisons éthiques, nous ne pouvons pas déprimer des singes. Donc, nous allons essayer de trouver des singes qui sont naturellement déprimés.
Dans les zoos.
Pour essayer de les soigner. Et puis, c'est seulement ensuite que nous allons pouvoir passer à l'homme. Donc, il faut quand même compter...
Combien d'années ?
7 ans, 8 ans, quelque chose comme ça. Il faut que vous attendiez un peu.
Mais alors, ces stimulations ultra-crâniennes, transcrâniennes, pas ultra-crâniennes, transcrâniennes, est-ce que c'est pas aussi, ça ne pourra pas aider pour d'autres maladies que la dépression ?
Si, potentiellement, ça peut aider pour toutes les pathologies psychiatriques, voire neurologiques, en fait. Toutes les maladies du cerveau, l'épilepsie...
L'anorexie aussi.
L'anorexie. En réalité, dès qu'il y a un dysfonctionnement cérébral, on pourrait le corriger avec cette approche.
Est-ce que d'autres chercheurs du monde sont intéressés par cette approche que vous avez?
Nous supposons que, effectivement, que c'est un sujet qui va émerger dans les prochaines années. Pour l'instant, nous sommes les seuls à avoir proposé l'utilisation de cette approche à but thérapeutique.
On sait bien que les laboratoires pharmaceutiques sont très forts. Est-ce qu'ils n'ont pas peur de votre approche ?
En tout cas, les laboratoires pharmaceutiques sont en train de changer eux-mêmes de stratégie. C'est-à-dire, en fait, la recherche qui se fait, la recherche fondamentale, les a déjà poussés à changer leur fusil d'épaule. C'est-à-dire, actuellement, puisqu'il y a ce double changement dans la médecine, c'est-à-dire la médecine qui passe de médecine curative à médecine préventive, où donc, on va dire, bah, plutôt que de traiter des pathologies graves, on va essayer de les prévenir et on va, par exemple, dire aux gens d'utiliser une autre alimentation plus variée. Ça a amené les industries pharmaceutiques à proposer des substances qui, par exemple, vont pousser à ça ou qui vont permettre d'affiner un diagnostic. Donc, en fait, ils vont étendre un petit peu leur activité pour dépasser le champ très strict du composé pharmaceutique. Parce qu'à mon avis, le médicament, en tout cas dans le traitement de ce type de pathologie, n'est pas forcément une perspective d'avenir. Parce que quand vous prenez un médicament, ce médicament ne va pas aller uniquement dans la zone déficitaire du cerveau, il va se trouver dans l'ensemble de votre corps. Et donc, il aura des effets secondaires qui sont liés au fait qu'on vous le trouve un petit peu partout. Alors que nous voulons cibler uniquement l'endroit qui est dysfonctionnel.
Alors, comment prévenir la dépression ?
Comment prévenir la dépression ? Nous sommes en train de faire des études chez des adolescents qui sont dans un état, on va dire, prédépressif. L'idée, on est en train d'essayer deux choses. On essaie à la fois des approches de psychothérapie spécifiques pour ces adolescents et puis des approches, effectivement, de neurostimulation.
Eh bien, est-ce qu'on peut penser aussi que dans la prévention, il peut y avoir des choses toutes simples comme une alimentation saine, un bon sommeil, l'activité physique ?
Ah, sans doute que tous ces éléments vont protéger de la survenue de la dépression. Parce qu'on sait par exemple que l'activité en général, c'est-à-dire l'activité physique, aussi l'activité sociale.
Enfin, très important, on disait que la solitude était une des premières causes de la dépression.
Donc effectivement, il faut sortir, voir du monde. Ça peut tout à fait permettre de contrecarrer l'état prédépressif qui ensuite conduirait à une dépression carabinée.
Un grand merci Catherine Belzung pour ces 4 émissions passionnantes sur la dépression. Puis alors, on souhaite vraiment à votre institut de très très vite faire des grandes avancées pour que le plus vite possible, les personnes qui sont en état dépressif puissent bénéficier de toutes vos découvertes. Merci.
Merci à vous.